Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour et bienvenue dans le carnet de région, magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Pour ce premier numéro du mois de février, c'est l'équipe de Radio Alliance Plus qui en assure la rédaction en chef.
Pour commencer, une fois n'est pas coutume, une bonne nouvelle en Pays d'Aude avec création d'emplois à la clé.
Nous irons ensuite à Barjac, dans le Gard, dans le cadre des rencontres hivernales consacrées au cinéma palestinien.
Nous allons aussi voir la réalisation du déplacement de l'autoroute A9 qui débute cette année entre Saint-Geniès-de-Mourques et Fabrégeuse. Et pour finir, nous parlerons des Restos du Cœur de l'Hérault qui ont un nouveau président.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et pour débuter ce magazine, nous vous le disions, direction le Pays d'Aude. Après une année 2013 très dure pour la ville de Castelnaudary, avec l'affaire de la viande de cheval, c'est enfin une bonne nouvelle qui vient d'être annoncée. La venue dans les 2 ans sur la ville d'une centrale d'achat du groupe Leclerc de 350 salariés. Un grand bâtiment va d'ailleurs être construit à l'occasion.
On en parle tout de suite avec le maire Patrick Mogard qui, vendredi dernier, ne cachait pas sa satisfaction.
Voilà, tous les achats faits par le groupe arriveront à Castelnaudary et seront ensuite distribués dans les 35 hypermarchés Leclerc du sud de la France. Voilà, donc nous avons en fait pu obtenir l'arrivée de Socamil parce que en fait nous avions monté un dossier à l'époque avec Georges Frêche d'aménagement de notre zone autoroutière, 130 hectares. Hein. Donc elle a été supervisée par le groupe Leclerc. Elle a donc correspondu à leur attente. Et aujourd'hui, hier soir, est tombée la bonne nouvelle hein, de l'arrivée de ce groupe qui réalise quand même au niveau de la Socamil 900 millions de chiffres d'affaires. Représente 340 emplois donc, en CDI, plus tous les emplois intérimaires. Et derrière est un facteur d'essaimage d'entreprises qui vont venir du fait que la Socamil arrive sur Castelnaudary. Donc pour nous, ça nous ouvre quand même des horizons assez intéressants à tous les niveaux, jusqu'à l'accueil d'une partie de leurs salariés que nous serons heureux d'accueillir à Castelnaudary, pour lesquels il faudra donc d'ores et déjà travailler sur les écoles, les commerces d'ailleurs, les commerces en seront aussi bénéficiaires, crèches et autres services de ce type, et notamment l'habitat pour pouvoir les loger. Voilà, ce qui ouvre quand même des perspectives très intéressantes pour l'Auragais qui en 2013 a beaucoup souffert avec l'affaire Lourberry, et qui nous a quand même donc fait mal, hein, voilà, et psychologiquement et économiquement si vous voulez. Voilà, hein. Donc aujourd'hui on repart sur de très bonnes bases.
Juste un coup d'œil sur l'agenda.
L'agenda, oui. Normalement, alors, d'après ce que disait Pascal Perraudot, qui est le directeur, qui est le président du groupe Socamil, il nous disait qu'en fait, leur intention était de déposer un permis de construire en mars, c'est-à-dire dans 2 mois. Et ensuite, première, donc, si tout va bien, hein, parce qu'il y a un déroulé, c'est plus de 100 000 mètres carrés de couvert. Donc, il faut déposer des ICPE. C'est des procédures administratives qui prennent du temps. Si tout va bien, qu'il n'y ait pas trop de blocage, ils souhaitent avoir le module frais donc, de leur installation, prêt pour le mois de septembre 2015. Donc c'est demain. Voilà. Et après, donc, réalisation de l'ensemble de la plateforme vers le mois de septembre 2016. Voilà.
Patrick Mogard, maire de Castelnaudary, qui accueille donc cette grosse entreprise de près de 350 salariés dans les mois à venir.
C'était un reportage de Nathalie Dessos de RCF Pays d'Aude.
Leïla Chaïd, ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne, était le week-end dernier l'invitée des 12e rencontres hivernales de la commune de Barjac dans le Gard. Rencontre consacrée 3 jours durant au cinéma palestinien. D'où l'invitation faite à la représentante de la Palestine la plus médiatisée en France. Et Leïla Chaïd, ayant récemment acquis une maison dans le département, c'est presque en voisine qu'elle a animé les débats après chaque projection, précisant l'enjeu de chacun des films en restituant ceux-ci dans leur perspective historique et politique. Précisément à l'heure où des militants de l'association France-Palestine Solidarité sont poursuivis par la justice française pour avoir appelé au boycott pacifique des produits israéliens, Leila Shahid souligne que la France est aujourd'hui le seul pays qui engage des poursuites judiciaires à l'encontre des militants. Nous écoutons Leila Shahid.
C'est le seul moyen non violent de faire pression sur le gouvernement israélien. Et la raison, bien sûr, c'est que pendant l'occupation, il y a des gens qui ont appelé au boycott des produits juifs, des citoyens juifs, et donc ça rappelle cette période-là. Mais la loi, elle est faite par les hommes. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la Seconde Guerre mondiale. On est au XXIe siècle, et que les juges devraient statuer et dire qu'il faut juger les appels au boycott pour ce qu'ils sont. Ça veut dire un moyen pacifique, non violent, de mettre pression sur un gouvernement. C'est même l'obligation des citoyens et des gouvernements des pays démocratiques, parce que c'est une des formes les plus importantes des droits de l'homme.
En tant qu'ambassadrice, Leila Shahid, justement de la Palestine, vous avez eu l'occasion justement d'exprimer votre indignation vis-à-vis de ces poursuites contre des militants qui prônent le boycott, désinvestissement et des sanctions.
Bien sûr, j'ai exprimé mon soutien et ma solidarité avec tout ce qui sont passés devant les juges à Mulhouse, à Bordeaux. Beaucoup sont des militants de l'association France-Palestine Solidarité, mais surtout, j'ai dit à mes amis des associations qu'ils devraient demander aux gardes des Sceaux de se justifier face à ces convocations par le juge de citoyens qui ne font aucun délit, qui n'attaquent personne physiquement, qui n'utilisent aucune pression. Ils distribuent des tracts et ils laissent aux citoyens le choix de faire son choix. Et donc je trouve que ce qui est scandaleux, c'est que personne ne statue sur la loi. Parce que qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrêtés et traduits devant des cours de justice? C'est qu'il y a une loi. Il faut que cette loi change. Et donc, la garde des Sceaux, il y a eu, vous savez qui est le premier qui a été voir la garde des Sceaux, pas Christine Taubira, mais celle qui l'a précédée. Peut-être que c'était Madame Alliou-Marie, c'était Stéphane Hessel. Stéphane Hessel est parti avec Elisabeth Guigou, présidente de la commission Affaires étrangères, et le président de l'association France-Palestine, voir Madame Alliou-Marie en lui disant « Nous vous demandons de revoir cette loi qui permet d'arrêter des militants dont le seul crime est de défendre le droit international par des mesures non violentes qui sont les sanctions, les désinvestissements et le boycott. » Et il faut que je vous dise que cette campagne devient maintenant internationale. Et donc je pense que cette campagne qui a été très importante pour la victoire de l'Afrique du Sud et de Mandela doit devenir aussi un outil que nous savons utiliser, et nous devons demander, les citoyens français, moi, je ne peux pas interpeller, moi, le garde des Sceaux, mais vous, citoyens, vous, auditeurs, vous pouvez écrire à la garde des Sceaux, aujourd'hui, Madame Christiane Taubira, pour lui dire, nous demandons qu'on revoie cette loi qui permet de punir la victime et pas de punir celui qui viole le droit.
C'était un reportage de Radio Grille Ouverte réalisé par Yves Defago.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
La réalisation du déplacement de la nef, c'est parti. Après une phase de conception menée en étroite collaboration avec l'ensemble des collectivités territoriales, plusieurs chantiers ont débuté. Durant les prochaines années, ce sont 25 km de travaux qui vont être réalisés entre Saint-Geniès-de-Mourgues et Fabrégues. Parmi les transformations, des élargissements de voies, des ouvrages permettant de traverser l'autoroute, mais aussi et surtout des déviations afin d'assurer au maximum une bonne circulation pour les automobilistes. Il y a quelques jours, l'équipe de FM+ s'est donc déplacée à Mogio sur le premier ouvrage d'art qui rétablira le chemin du Mas de Gineste. Sur ce chantier, la sécurité et l'environnement ont été mis à l'honneur. Au micro de Maxime Triano, le directeur d'opération Salvador Núñez nous explique ce choix. Sur ce premier son, sur place, c'est donc Amélie Aliandri qui repose le respect de l'environnement. La jeune femme nous décrit ses missions. Et sur le second son, nous aurons la fin des travaux annoncés pour ce déplacement de l'A9 en 2017.
On a des mesures environnementales parce qu'on a forcément un impact sur l'environnement. Quand on réalise de tels travaux, vous voyez, on travaille dans une fosse, on est au milieu d'un bois, donc on va avoir un impact en termes de pollution, on va générer du bruit, on va générer des déchets, ce qui justifie ma présence ici. On va aussi être à l'écoute de nos riverains. Moi, ici, j'ai un rôle de sensibilisation. J'ai préparé le chantier, donc j'ai analysé toutes les espèces protégées qu'il y avait, les riverains, les besoins qu'on avait en termes de tri des déchets aussi, en fonction de la quantité et du type de déchets qu'on allait produire. Ensuite, on a mis en place les installations adéquates pour protéger notre environnement, pour protéger par exemple le bois du Limousin au milieu duquel nous travaillons. Nous avons des espèces protégées, donc on veille à préserver l'irrigation du bois. On a mis en place des filtres, vu que nous travaillons dans une fosse. En cas de pluie, il peut y avoir de l'eau dans la fosse, donc on a mis en place un fossé avec un filtre au bout, ce qui permet de filtrer l'eau qui se rejette ensuite dans le bois. Nous prévenons aussi les pollutions, fuite de produits dangereux, hydrocarbures, sur le chantier, donc à l'intérieur même du chantier, pour éviter qu'il y ait une fuite sur le sol, qui s'infiltre dans le sol et qui aille polluer notre environnement. Donc pour ça, on a des kits anti-pollution, on forme notre personnel à l'utilisation de ces kits. On leur explique également pourquoi on a besoin de mettre en place de telles mesures. Ensuite, on a aussi nos bennes qui sont mises en place pour le tri des déchets. Notre personnel sensibilise à l'utilisation de ces bennes. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un réflexe pour eux.
Est-ce que vous pouvez nous détailler exactement quelles espèces sont protégées ici ?
Actuellement, il y a l'isouette de Durieux. C'est une plante, c'est une sorte de fougère qui a besoin de beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'on doit préserver l'irrigation du bois et surtout éviter toutes les pollutions, parce que c'est une plante qui va pomper l'eau qu'il y a dans la terre. Donc si cette eau est polluée, on va la détruire. Et il y a également des coucougés. Ce sont des oiseaux migrateurs, donc ils ne sont pas là actuellement. Et c'est la raison pour laquelle nous réalisons les travaux à cette période. Donc on explique bien au personnel qu'il faut qu'on veille à prévenir les pollutions, parce que si on pollue aujourd'hui, au retour de cet oiseau, son environnement va être pollué, donc on met en péril cette espèce.
D'abord, pour la sécurité, parce que c'est une politique Vinci Autoroute, c'est une obligation, mais pour moi une fierté que de le faire. Et donc, nous avons une politique qui a pour raison d'être la chose suivante, je vais vous le dire comme je me le ressens, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de raison valable pour que les gens, quand ils viennent au travail, se blessent, se meurtrissent, voire pire encore. Donc on se doit de mettre en œuvre tous les moyens, quitte à s'immiscer, et aller largement au-delà de ce que la loi demande, pour faire en sorte que les entreprises comprennent bien, comme pour les entreprises pétrolières, hein, ou qui ont la réputation d'avoir zéro accident, etc. Et nous, on dit aux entreprises de TP, il n'y a pas de raison qu'ailleurs ce soit possible, et pas chez nous. Donc on investit en ce sens qu'on a du personnel, M. Schermer, là qui est avec nous, s'occupe de ça avec moi-même, bien évidemment. Et on demande à chaque entreprise, ici vous avez une personne, qui a pour charge de s'occuper de ça au quotidien, à plein temps. L'environnement, c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire qu'on pourrait penser a priori que dans les contrées où on passe, il n'y a pas grand-chose, etc. Or, en fait, quand on regarde de près ce qu'on a fait dans les années précédentes, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des espèces protégées qui sont là. Il ne suffit pas que nous, on ait des équipes, ce qu'on a pour surveiller ça. Il faut aussi que sur place, à chaque endroit où c'est sensible, ce qui est le cas ici avec le bois du Limousin, il y a une personne dans l'entreprise qui soit responsable et qui veille au grain, si j'ose le dire ainsi, avec ce que font au jour le jour les ouvriers. C'est la seule façon d'y arriver. L'idée est la suivante, si on prend des engagements, soit on se donne les moyens pour les tenir, soit on fait semblant. Donc nous, on n'a pas l'intention de faire semblant.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Les Restos du Cœur de l'Hérault ont un nouveau président, il s'appelle Patrice Deschottes. Il prend la succession de Françoise Vézéette, en poste depuis 8 ans. Patrice Deschottes est retraité de la SNCF, il est au Restos du Cœur depuis 7 ans. Il a donc plein de projets en tête.
On va dire que j'ai pas mal de projets, mais enfin qui demandent évidemment à être un petit peu mieux élaborés, et puis il faut qu'on en discute. Hein. Déjà, je voudrais un petit peu que l'image des restos, comme quoi on distribue de la nourriture gratuite, qu'on fait de l'assistanat, etc., je voudrais que cette image change un petit peu, parce que quand on est bénéficiaire dans un centre resto, d'ailleurs on emploie le terme de personne accueillie, déjà on rencontre des bénévoles qui sont formés pour ça, et on essaye de voir un petit peu pourquoi les gens viennent chez nous. Et si on peut, avec nos compétences ou les compétences d'autres associations, commencer à résoudre les problèmes des gens, on ne va pas s'en priver. Ça n'est qu'après qu'on regarde si, effectivement, ils peuvent prétendre à une aide alimentaire, sachant que ça reste notre fondement, hein, bien évidemment. Mais pour nous, c'est le premier facteur d'inclusion sociale, c'est quand même l'aide alimentaire, mais ça ne suffit plus maintenant. Il faut qu'on accompagne les gens. Par exemple, cette année, on va essayer de mettre sur pied quelque chose qui s'appelle « soutien à la recherche d'emploi ». Ça ne veut pas dire qu'on va leur trouver un emploi demain, c'est pas ça du tout. Mais si quelqu'un veut chercher un emploi, que nous on essaye déjà de savoir par où il faut commencer, savoir faire un CV, etc., ça on peut s'en occuper. Donc c'est avant tout cette image qu'on a des restos d'un peu d'assistanat que je voudrais changer, parce que ce n'est pas le cas du tout en fait. Les restos, c'est pas la cantine gratuite du coin.
Passé l'euphorie de cette élection à la tête des Restos du Cœur de l'Hérault, Patrice Deschottes est confronté aux réalités du terrain. La campagne d'hiver n'est pas terminée, mais déjà les chiffres ne sont pas bons.
Le nombre de personnes qui s'inscrivent chez nous augmente de 10% chaque année, ce qui est énorme. Ce qu'on constate cette année à mi-parcours, puisque la campagne d'hiver se termine fin mars, mais on est très surpris cette année par le fait que ce sont les zones rurales qui augmentent le plus. Un simple chiffre, le centre de Fabrègues, qui se situe à 10-15 km de Montpellier, a enregistré 36% de personnes inscrites en plus. Montpellier, bizarrement, ça a augmenté, mais enfin, dans des proportions beaucoup plus modestes, on va dire, de l'ordre de à peine 5%. Mais ça augmente toujours. Ceci dit, on n'est pas étonné parce que, effectivement, nous sommes un des départements français où on a plus de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc rien ne nous étonne. Et malheureusement, on sait déjà que même s'il y avait une reprise économique dans le pays, on sait que les personnes qui viennent nous voir ne seront pas les premiers servis. Donc on sait déjà que cette tendance pour la prochaine campagne va continuer.
C'était un reportage de Romain Bercher de RCF Héros.
Ainsi se termine notre carnet de région de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.